Pierre Picard, bonjour.
Bonjour.
Alors la Chine, c'est la forme olympique en ce moment?
Alors, la Chine, oui, c'est quand même, malgré les événements surmédiatisés, c'est quand même la forme olympique, et pas uniquement depuis 2008, hein, un chiffre qui porte bonheur en Chine, puisque le 8 est le symbole de la prospérité, du bonheur. Et c'est vrai que les Chinois se font une très grande fête pour accueillir les Jeux de Pékin le 8 août 2008 à 8 h du soir. Mais c'est vrai que malgré ce que l'on entend ici ou là en Occident, en voulant quelquefois un peu trop imposer notre modèle démocratique, c'est vrai que la Chine évolue considérablement depuis quelques années et elle poursuit sa route non seulement sur le progrès économique, sur une meilleure répartition du pouvoir d'achat dont on parle en France, en tout cas pour les Chinois, et puis aussi dans d'autres domaines dont on parle un peu moins, comme celui de la santé, de l'éducation, des sciences, des technologies, des médias, mais également, également des libertés individuelles. C'est ainsi que l'on voit maintenant, ce qui n'existait pas auparavant, de plus en plus de touristes de la classe moyenne chinoise qui voyagent à travers le monde, qui privilégient encore la France. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et puis aussi les Chinois qui circulent de plus en plus librement. Des libertés religieuses que j'ai pu observer, tant pour les catholiques que les bouddhistes, des choses qui s'arrangent ou qui sont en train de s'arranger avec le Vatican. Et puis, globalement, une jeunesse chinoise qui se sent de mieux en mieux. Alors, cela ne veut pas dire que les choses sont dans un monde parfait, comme chez nous. On connaît bien les problèmes que chaque pays peut être confronté. Néanmoins, on a une forme olympique. Alors, bien évidemment, les événements actuels choquent un petit peu les Chinois, dans la mesure où ils se sentent un petit peu, non pas bannis, mais ils ne comprennent absolument pas la vision occidentale des médias sur, je dirais, non pas un acharnement, mais une focalisation sur tous les points noirs de la Chine, alors que la Chine évolue quand même très favorablement dans de nombreux domaines. Il suffit de lui laisser simplement encore un petit peu de temps pour qu'elle termine ses réformes. Et puis enfin, pour conclure sur cette première question, je dirais que la Chine est quand même dans une voie, à mon avis, les choses pourraient changer, mais la Chine est dans une voie finalement de démocratisation à la chinoise.
Alors, vous citez en exergue de votre ouvrage une phrase de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques: Il y a dans les mœurs comme dans l'histoire des conquêtes imprévues. Mais la mutation de la Chine en ce début du XXIe siècle, est-ce qu'elle était si imprévue que ça?
Alors, si on écoute certains auteurs, dont Pierre Fitte, hein, qui a écrit le fameux ouvrage Quand la Chine s'éveillera, notamment, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à l'émergence, pas uniquement de la Chine, mais on le voit d'autres pays comme l'Inde, le Brésil. Mais c'est vrai que la Chine, avec ses près de 1,4 milliards d'habitants, on pouvait prévoir qu'elle allait émerger. Cependant, ce qui surprend plus aujourd'hui par rapport à cette forme olympique, par rapport à ce décollage, par rapport à ce dynamisme, c'est qu'il se fait à la fois selon un triple modèle, à la fois selon, je dirais, le modèle chinois qui se modernise tout en gardant ses traditions, avec un regard, je dirais, un petit peu du côté des Américains, comment ils managent, comment ils évoluent dans leur construction de nations, et puis également un regard sur l'Europe. Mais surtout, on voit un pays qui, grâce à ses plans quinquennaux, est pas à pas en train de construire un modèle où il intègre les notions dont je parlais précédemment, c'est-à-dire la science, la technologie, l'éducation, la recherche, une meilleure éducation pour tous. Et on pouvait certes prévoir que la Chine allait se développer, mais aujourd'hui, on peut imaginer que c'est quand même surprenant, parce que la Chine demain va présenter quand même un nouveau modèle. Lequel encore, on ne le sait pas, parce que la Chine, en fait, elle est en train c'est un petit peu comme un enfant qui grandit trop vite, ou un bel adolescent. Et en fait, les Chinois eux-mêmes ne savent pas ce que va être la Chine demain. C'est une société que les Chinois inventent chaque jour et ils ne savent pas ce que demain va être leur Chine.
Alors justement, vous qualifiez la Chine de futur numéro un mondial, et que vous inspire cette irrésistible ascension?
Elle m'étonne chaque jour, moi-même, qui suis sur place, comme vous-même, lorsque vous y allez, parce que même si l'on peut prédire parfois, même si je n'ai pas le don d'ubiquité, même si on peut suggérer, par exemple, que le secteur de l'automobile, comme je le disais il y a 4 ans, allait émerger, au grand dam d'ailleurs des constructeurs européens qui ne le croyaient pas du tout, on s'aperçoit aujourd'hui que malgré ce que l'on présuppose de ce que va devenir la Chine, elle dépasse généralement en énergie, en travail, en croissance et en évolution tout ce que l'on peut imaginer, y compris notamment en matière de qualité et en matière de développement, de recherche et de technologie. Ainsi, ne serait-ce que pour prendre qu'un exemple, bon, c'est le domaine de l'architecture, qui est un grand chantier où la plupart des grands architectes mondiaux actuellement expriment leur talent. Lorsque je vais à Pékin, et quelquefois même je suis un petit peu fâché parce que je ne retrouve pas mes coins favoris, la Chine va encore plus vite que ce que je ne le croyais. Donc oui, la Chine m'étonne encore.
Est-ce que le nationalisme, c'est la clé de la réussite chinoise?
Le nationalisme, certainement, est pour une part dans je dirais, dans la construction, je dirais, positive de ce que l'on peut percevoir de la Chine, mais je crois qu'il n'y a pas uniquement que le nationalisme, il y a aussi, je crois, la volonté politique actuelle des dirigeants chinois qui sont de grande qualité, quoi qu'on en dise, à l'étranger. Et puis, il y a surtout la culture chinoise qui est basée globalement sur des 5 000 ans à peu près de cultures qui sont liées à des philosophies comme le taoïsme, le bouddhisme également, car rappelons qu'il y a plusieurs cultures bouddhistes et également le confucianisme. Et puis, il y a cette énergie chinoise qui lui est propre, qui est pleine à la fois de créativité et rappelons que la Chine a toujours été finalement en dehors des périodes où elle s'est fermée dans l'histoire, un pays qui a inventé énormément de techniques et de technologies qui sont aujourd'hui utilisées dans le monde entier.
Alors, les entreprises réussissent très très bien en Chine. Est-ce que vous avez quelques success stories à nous raconter?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir que ce succès chinois, il est tellement étonnant que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui des multinationales qui commencent à être très connues dans le monde, mais qui sont finalement très récentes, qui ont débuté il y a une vingtaine ou une dizaine d'années. Alors, pour ne citer que quelques-unes, on peut citer par exemple le cas de Baidu. Baidu, qui est le Google chinois. Alors, on dit, bon, bien sûr, les Chinois n'ont pas encore totalement accès à l'ensemble de l'Internet planétaire. C'est vrai. Mais en même temps, c'est une ouverture déjà pour les Chinois, et on peut penser que demain, ils auront un accès libre. Mais il n'y a pas que Baidu. Il y a par exemple le groupe PetroChina, qui est passé en l'espace de quelques semaines au niveau du premier rang mondial, au niveau de sa capitalisation. Aujourd'hui, PetroChina, d'ailleurs, qui vient de prendre des parts de marché dans Total, nous venons de l'apprendre très récemment, est le plus grand groupe capitalisé du monde. On a également, pour les citer très rapidement, China Mobile, qui est le premier opérateur mobile en Chine et le plus important du monde. On a le marché Internet, on a China Aviation, on a Sinochem, la grande entreprise publique chinoise dans le domaine de la chimie. Alors citons également des groupes qui investissent à l'étranger, comme la célèbre bière Tsingtao, ou alors sur la ville côtière de la Chine, au nord-est, ou Sinopec, une autre entreprise pétrolière. On a également le groupe Haier, qui produisait auparavant pour des entreprises étrangères toutes sortes de petits électroménagers, et qui aujourd'hui a sa propre marque et développe ses marchés à l'international. Donc on voit bien que derrière ces quelques exemples, dont Dongfeng Motors, le troisième constructeur automobile chinois qui ne cesse de se développer, avec d'autres acteurs comme Peugeot, PSA et Honda, on voit bien qu'on a des acteurs internationaux qui s'affirment au niveau mondial et qui, avec les réserves financières colossales de la Chine et les fonds souverains, apporte finalement non seulement une puissance financière aux entreprises chinoises au niveau de la Chine continentale, mais bien aussi au-delà de la Chine continentale, dans les pays où elle peut investir. Et c'est un petit peu la suite de l'Empire chinois, où on voyait comment cette diaspora chinoise répartie dans les 5 continents est aujourd'hui bien utile à la Chine, puisqu'elle représente finalement un réseau pacifique, mais très utile à la Chine pour diversifier ses activités économiques et culturelles dans le monde.
Alors, sans transition, on revient aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on pourrait faire un rappel rapide de cette histoire qui commence en Grèce, alors extrêmement rapide, hein, et puis jusqu'à Pékin en 2008?
Oui, ce qui m'a amusé dans les Jeux Olympiques, lorsque j'ai écrit l'ouvrage, c'est qu'en fait, après de nombreuses investigations, j'ai eu un éclairage en me disant, mais finalement, on parle des Jeux Olympiques, on parle du baron Pierre de Coubertin, de cette magnifique idée de faire renaître des valeurs au niveau mondial, et puis on parle aussi, en même temps, d'une Chine millénaire, antique, et d'une Chine moderne. Donc, m'est venu tout d'un coup une sorte de parallélisme en me disant, voilà le croisement des chemins pour le 8 août 2008, et j'avais envie de raconter cette histoire, cet itinéraire, où dans les jeux antiques, païens, masculins, épicuriens, qui étaient d'ailleurs l'objet de trêves, hein, puisqu'aujourd'hui on parle de contestation, mais à l'époque, il ne faut pas oublier que dans les États et les cités grecques, il y avait beaucoup de guerres, il y avait d'esclavage, il y avait également beaucoup d'inégalités. On avait décidé effectivement de faire une trêve et d'organiser des jeux qui ont été ensuite abolis, parce que l'emprise des orthodoxes indiquait que ces jeux étaient justement des jeux païens et épicuriens. Mais c'est grâce au baron Pierre de Coubertin qu'on a pu voir au XIXe siècle la renaissance de ces jeux. Alors bien sûr, c'est un très rapide raccourci que l'on fait là à l'antenne pour décrire finalement des Jeux Olympiques qui auraient pu s'arrêter s'il n'y avait pas eu cette renaissance qui s'est faite à la Sorbonne. Après ce silence, après cette fermeture, comme la Chine aujourd'hui qui renaît, on a une renaissance des Jeux Olympiques qui est des Jeux Olympiques qui sont très médiatisés, on le voit aujourd'hui, mais qui l'étaient déjà auparavant à Athènes, à Sydney, à Los Angeles, puisqu'il y a déjà eu des tentatives de boycott dans d'autres pays du monde à l'occasion d'autres Jeux Olympiques. Et il s'agit maintenant d'une médiatisation incroyable où, grâce à la télévision, grâce aux médias, des centaines de millions de téléspectateurs peuvent suivre dans le cadre d'une grande fête mondiale un événement planétaire. Alors, pour la Chine, c'est aussi effectivement l'occasion, lorsqu'elle s'est vue attribuer par le CIO les Jeux Olympiques de Pékin, c'est également une grande fierté nationale. C'est la raison pour laquelle, sous le slogan « Un monde, un rêve », les Chinois, qui n'avaient pas l'expérience d'organiser ce genre de manifestation, ont décidé finalement d'essayer de faire des jeux superbes, et ils ont mis énormément de moyens financiers, mais également énormément de moyens technologiques, de moyens humains, avec des orientations très portées sur la technologie, très portées également sur l'environnement et très portées également sur le côté populaire. Donc essayer de donner à ces jeux encore plus de dimension planétaire, à la fois, je dirais peut-être, dans le bon sens pour booster la Chine en général et en même temps pour donner peut-être une nouvelle image de ce qu'ils pensent être, de ce que peuvent être des Jeux Olympiques dans l'image qu'ils vont offrir au monde entier.
Alors vous dites que le sport est populaire aujourd'hui en Chine, est-ce que ça a toujours été le cas?
Oui et non. Vous savez, lorsqu'un pays est aussi âgé, je dirais, au niveau de sa tradition, lorsqu'il bénéficie d'autant de traditions, il est sûr que la pratique sportive en Chine telle que nous la concevons aujourd'hui, avec des professionnels, des clubs affermis, ces choses n'existaient pas auparavant en Chine, parce que, d'ailleurs, de même en Occident auparavant, le sport a pris, je dirais, l'importance qu'il a aujourd'hui depuis seulement quelques dizaines d'années. En Chine, c'est encore plus récent, parce que la Chine avait beaucoup de traditions qui étaient liées notamment aux arts martiaux ou aux exercices physiques, mais elle n'avait pas cette pratique du professionnalisme que l'on a chez nous en Occident ou en Europe, mais néanmoins qui est relativement contemporaine puisqu'elle date du début du siècle dernier en Occident. Alors les Chinois effectivement ont appris à accélérer leur mouvement au niveau de leur organisation, de leur fédération, au niveau de l'entraînement de leurs sportifs, parce que la Chine n'avait auparavant pas l'habitude de, je dirais, de sponsoriser de tels événements au niveau des hautes compétitions, parce que tout simplement, il fallait nourrir le peuple, il fallait le loger, il fallait l'éduquer. Ainsi, par exemple, un étudiant ou un sportif pouvait être très brillant et être peut-être le numéro un mondial auparavant dans sa discipline, mais il considérait que, bon, un petit peu comme un athlète de l'Antiquité, il fallait après se marier ou en tout cas avoir un travail. Aujourd'hui, maintenant, les choses sont différentes. Quand on voit, par exemple, que dans la ville de Qingdao, l'équipe de voile chinoise devient leader en l'espace de quelques années. Ça veut dire que non seulement derrière, il y a une volonté de sport, il y a des moyens financiers, et il y a vraiment un élan sportif qui est né en Chine, donc qui est relativement récent, mais qui, en tout cas, stimule l'imagination des supporters chinois qui sont de plus en plus nombreux à suivre des disciplines sportives, d'ailleurs qui m'étonnent, puisque maintenant, le yachting, y compris des sports qui peuvent apparaître comme étant des activités de luxe, ou même comme le golf ou la voile, bien sûr le football, l'équitation à Hong Kong, ce sont des activités sportives très prisées. Donc à la fois un phénomène ancré, je dirais, de l'exercice physique depuis très longtemps, et puis maintenant une prise de conscience que, bah oui, le sport c'est très bien, on a des clubs de sport, de gym en Chine, comme chez nous, et on s'organise pour aussi gagner des médailles aux Jeux Olympiques.
Quand a eu lieu la première participation d'un athlète chinois aux Jeux Olympiques?
Vous savez, il y a une légende, je ne sais pas si elle est vraie, mais on dit qu'en 1908, quand il y a eu des Jeux Olympiques en cette année, pour la première fois, on a vu dans un journal chinois un article qui mentionnait ces Jeux Olympiques. Et en 1908, vous vous rendez compte, les Jeux Olympiques à Pékin, on n'y pensait pas. Ça ne pouvait être qu'un doux rêve pour les Chinois. Et selon une légende, lors de cette fameuse année 1908 où l'on commence à parler des Jeux Olympiques en Chine, donc bien loin des terres de Pékin et d'ailleurs, on dit qu'un jeune élève chinois de la ville de Tianjin aurait posé les trois questions suivantes. Alors je vous les livre. Alors, première question, quand les Chinois participeront-ils aux Jeux Olympiques? Deuxième question, alors quand pourront-ils, monsieur, décrocher les médailles d'or aux Olympiades? Et peut-être la troisième, quand la Chine pourra-t-elle accueillir les Jeux Olympiques? Alors, bon, aujourd'hui, nous pouvons répondre à ces trois questions de ce jeune Chinois et de ce rêve sur la participation de la Chine aux Jeux Olympiques. C'est en 1932 que le sportif Liu Changchun devient le premier athlète chinois participant aux Jeux Olympiques, donc 1932, et quant à la médaille d'or, elle est gagnée en 1984 quand le tireur chinois Xu Haifeng la remporte aux Jeux de Los Angeles. Et la troisième, nous la connaissons tous, pour tous ces Chinois qui attendent les Jeux Olympiques, la réponse arrive le 13 juillet 2001 lorsque le comité olympique annonce que Pékin est reçu pour les nouvelles Olympiades de 2008, et donc le troisième vœu est exaucé.
Alors quels sont justement les enjeux des Jeux Olympiques pour cette Chine?
Les enjeux sont multiples. Les enjeux, c'est d'abord pour le peuple chinois pratiquement réunifié maintenant. Une Chine qui va mieux économiquement, mais également pour toute la diaspora réunie aux quatre coins du monde. C'est un enjeu à la fois de reconnaissance. C'est vrai que les Chinois ont été exilés, mais également les Chinois de Chine qui ont énormément souffert par les guerres, par les invasions, par les humiliations et aussi par des conflits d'idéologies divers. Aujourd'hui, se sentent totalement honorés de pouvoir se présenter devant le monde entier. Et c'est vrai qu'ils ont envie tous de présenter leur meilleure image, et ils le disent eux-mêmes, de corriger leurs défauts, entre guillemets. Il ne faut pas croire que les Chinois, bon, ils sont un peu comme les Français, ils sont un peu gaulois, ils sont un peu orgueilleux, mais en même temps, ils ont envie de construire une belle nation. Et il y a donc l'enjeu de vouloir se montrer sous le meilleur jour. Ça veut dire que les Chinois actuellement essayent de préparer la plus belle fête. Vont-ils réussir? Je l'espère vraiment, parce qu'ils ont mis tous les moyens en œuvre. Mais on sait très bien aussi que les Jeux Olympiques, c'est une histoire d'image, mais c'est également au niveau de l'urbanisme, de l'infrastructure, un fantastique développement pour Pékin qui va devenir, et qui est déjà, mais qui va s'affirmer comme une métropole internationale. Et puis, ne nous le cachons pas, c'est également des enjeux économiques, c'est également un regard de tout l'Occident qui est braqué à travers des dizaines de milliers de journalistes et de reportages sur un pays et une grande nation. Et cette nation, ce n'est pas n'importe quelle nation, c'est la Chine dont on parle tous les jours au niveau de l'économie, au niveau du commerce, au niveau de l'art. Aujourd'hui, on vient de voir que ces derniers temps, le marché de l'art chinois avait dépassé le marché de l'art français. Donc chaque jour, la Chine, c'est le pays des records, mais en même temps, je crois qu'elle avait besoin de cette reconnaissance internationale pour peut-être, quand on célèbre en famille un anniversaire, un mariage, indiquer que maintenant on fait partie de la planète. Et puis je crois aussi qu'il y a véritablement ce grand désir, malgré les qualités et les défauts de la Chine, de s'ouvrir davantage au monde chaque jour. Et c'est le discours constant que j'ai entendu de la part du peuple et des dirigeants chinois, c'est de progresser dans tous les domaines.
Dans quelle discipline les Chinois ont-ils le plus de chances de gagner des médailles ?
Alors, si on s'en réfère notamment à la fameuse diplomatie du ping-pong, par exemple, qui est d'ailleurs une marque commerciale, rappelons-le, au départ. Bon, on pourrait dire, oui, effectivement, les pongistes chinois, masculins et les dames, risquent d'avoir pas mal de médailles. Mais on s'aperçoit que, depuis quelques années, les Chinois, notamment en athlétisme, mais également en taekwondo ou dans d'autres disciplines sportives, y compris en voile, sont très dynamisés et deviennent de plus en plus performants. Alors, il est difficile d'avoir un recul par rapport aux Jeux d'Athènes où les Chinois ont remporté de nombreuses médailles, mais on a globalement, notamment également en natation, en course à pied, les Chinois ont énormément de possibilités d'acquérir de nombreuses médailles d'or, d'argent et de bronze. On ne peut pas citer, bien sûr, tous les sports, car tous les sports et toutes les épreuves vont être très nombreuses aux Jeux Olympiques.
Alors, comment Pékin va-t-il assurer la sécurité des athlètes et du public ? Parce que ça, c'est un sacré défi.
Alors, oui, vous avez entièrement raison. La sécurité, c'est d'ailleurs comme pour toute nation qui organise un événement international, que ce soit la France pour la Coupe du Monde de foot ou d'autres manifestations. Mais là, c'est vrai que sur place, il va y avoir la plupart, on l'espère en tout cas, ou on le croit, où les Chinois les attendent, la plupart des grands athlètes internationaux, près de 30 000 journalistes, on va avoir effectivement de nombreux présidents, délégations internationales, donc je dirais entre guillemets que c'est du pain béni pour d'éventuels provocateurs ou gens qui voudraient organiser éventuellement des actions d'éclat. Donc c'est vrai pour la Chine comme pour tout autre pays, la sécurité, je dirais heureusement et malheureusement au regard de l'époque, c'est un enjeu international au regard des revendications diverses qui peuvent s'exercer à l'occasion d'un tel mouvement. Alors, comment la Chine s'organise ? Alors déjà, elle s'appuie, c'est vrai, sur sa population locale, sur ses centaines de milliers de volontaires, sur sa police, il faut l'imaginer, sur son armée, sur ses recherches peut-être discrètes, sur sa collaboration également avec les services de police américains, français. Elle s'est enrichie de différents stages de responsables chinois ou de policiers chinois à l'étranger, ou d'étrangers de coopération qui sont exercés soit à l'étranger, soit à Pékin. Et puis aussi, elle est basée sur la technologie. La Chine a misé très fort sur des systèmes de reconnaissance faciale, Elle a basé très fort sa sécurité sur des systèmes de vidéocaméra et de contrôle, ne serait-ce que pour bien vérifier que les athlètes, par exemple, qui allaient rentrer sur un stade, pouvaient être identifiés et que c'était bien eux et non pas d'autres personnes. Donc, bien sûr, pour la Chine, c'est important la sécurité parce que il ne faut pas que ces jeux soient ensanglantés par des événements comme on a pu le voir auparavant.
Quel est le budget global des Jeux de Pékin?
Alors, il y a deux budgets. Il y a le budget, disons, global qui concerne l'ensemble des infrastructures, qui est aux alentours de 30 milliards d'euros. Mais c'est un budget qui, d'abord, est rentabilisé parce qu'il concerne toutes les infrastructures, le métro, les aménagements, les ponts, les routes, l'environnement durable. Donc là, c'est un budget qui, finalement, profite par nature aux Chinois et aux Pékinois et à l'ensemble de la population chinoise qui vivra dans ces régions. En même temps, c'est un accélérateur pour les autres villes chinoises. Et puis après, il y a le budget interne des Jeux Olympiques qui est inférieur à 2 milliards d'euros et qui, lui, sera largement couvert par les bénéfices qui seront, par tous les bénéfices qui vont être générés par l'ensemble des droits de télévision, les opérations de marketing, les sponsors publicitaires qui vont être très nombreux. On aura Coca-Cola, Adidas, Ayer et tant d'autres. Donc, des budgets qui paraissent effectivement faramineux, mais à l'échelle de la Chine, ça ne me paraît pas très important.
Oui, d'autant plus que j'ai vu dans votre ouvrage qu'à Athènes, en 2004, le budget global était de 7 à 13 milliards d'euros, que Pékin en prévoit 30, mais que pour Londres, en 2012, on en prévoit 34. Alors, on va s'arrêter où ?
On a une sorte d'inflation. Alors, c'est vrai que, en même temps, les exigences parfois légitimes du CIO, il y a la sécurité, vous en parlez. En même temps, il s'agit d'encourager des politiques d'infrastructures nouvelles. Il s'agit en même temps que la population des pays qui reçoivent les Jeux Olympiques bénéficie, dans le suivi des Jeux Olympiques, d'aménagements urbains qui leur soient favorables en matière de transport, en matière d'écologie, en matière de modernité. Et tout cela coûte énormément d'argent parce qu'il faut tout repenser, tout restructurer. Alors si les choses sont faites, je dirais, avec intelligence et dans ce cadre, c'est vrai que cela coûte beaucoup d'argent. Mais bon, après, il faut voir les capacités des pays et quels pays peuvent assurer ce type de dépenses. C'est peut-être possible pour la Chine, bien sûr. C'est certainement possible encore pour demain Londres. Mais qu'en serait-il s'il s'agissait, disons, de pays ayant des budgets plus modestes en Afrique ou en Amérique latine? Donc là, je pense qu'il faudrait peut-être réviser à la baisse ses prétentions financières.
Bon, alors, les Jeux et après, qui en profitera vraiment ?
Eh bien, si justement, on venait juste finalement d'inciter à parler de la suite des Jeux. Déjà, il faut souhaiter que ces Jeux olympiques vont être réussis pour les sportifs, pour les téléspectateurs du monde entier, et que cela va permettre à l'ensemble du monde de mieux découvrir la Chine, parce que je crois que la vision de la Chine est réellement faussée, à part ceux qui vont réellement en Chine et qui côtoient cette culture extraordinaire et cette modernité. Et qui va en profiter ? Je crois que c'est le peuple chinois en premier lieu, parce que les Jeux sont un accélérateur incroyable de modernité, de liberté, y compris pour les droits de l'homme en Chine. On assiste depuis 4 à 5 ans à une population qui se met à parler l'anglais, le français, qui s'ouvre, qui garde ses traditions, qui circule de plus en plus librement. Et c'est pour le peuple chinois, sur ce plan-là déjà, un gros bénéfice. Les Jeux Olympiques également, au niveau des infrastructures, il n'y a aucun doute, la Chine avait besoin d'avoir les infrastructures sportives modernes en matière d'environnement. Les choses avancent énormément actuellement en Chine, et là également, c'est un bienfait pour la Chine. Et puis, je dirais que surtout, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un accélérateur pour toute la Chine elle-même, donc pour aujourd'hui et pour demain, parce que sur la base des valeurs des Jeux Olympiques, une partie de la Chine est en train de se construire aujourd'hui.
Alors après tout ce que vous venez de dire, quelles seraient les conséquences d'un éventuel boycott des Jeux Olympiques par les Occidentaux et les Américains ?
Alors, le boycott n'a jamais vraiment marché. On l'a vu à Los Angeles, on l'a vu à Moscou, parce que ça voudrait dire, ben, nous, on a raison, les autres ont tort. Nous, les démocrates, les autres ont leur modèle. Et dans ce cas-là, ben, demain, on va mettre de côté tout le monde, les Israéliens, les Russes, les Américains, les Chinois d'un côté, les Arabes de l'autre. Quand on a une logique culturelle ou sportive, on doit quand même admettre qu'on est dans une logique de diplomatie internationale, que les choses doivent évoluer pas à pas et qu'on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, aligner tous les pays et faire des copier-coller sur leur propre modèle. Donc ça, je tenais à le dire parce que vraiment, quelquefois, il y a une confusion où la France, ce qui est bien, voudrait parfois donner un petit peu des leçons, alors qu'il faut également laisser aux autres pays faire ce qu'ils font depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, alors que nous avons construit un modèle qui n'est pas parfait aujourd'hui, mais qui est peut-être en bonne voie, je l'espère, en l'espace de 2 ou 3 siècles. Donc il faut bien considérer que la Chine, elle est... La nouvelle Chine, ce n'est pas une Chine qui a démarré au XVIIe siècle. C'est une nouvelle Chine qui a démarré il y a 20 ou 30 ans et qui est en train de faire tout le travail. Des fois, on me dit, mais oui, mais la peine de mort. Bah oui, mais la peine de mort, nous, on l'avait en 80 ou en 80 avant que le président François Mitterrand l'abolisse. Les droits pour les libertés pour les minorités sexuelles, par exemple, c'est pareil, c'est venu après. Donc tout ça, ça bouge. Et on ne se rend pas compte que même chez nous, le droit de vote des femmes, le droit de vote tout court, si on regarde l'histoire, beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent, bah oui, nous on a tout, etc. C'est quand même, ça s'est construit avec des luttes. C'est construit avec des luttes de progressistes et d'hommes de bonne volonté de toutes parts. Donc en Chine, c'est pareil. Et c'est en train de se réaliser. Donc par rapport à votre question, si demain on boycottait les Jeux Olympiques, ce que je ne crois pas que l'on puisse faire d'une façon raisonnable, on porterait atteinte, pas à la Chine, parce que finalement les Chinois seraient peut-être déçus et feraient leur jeu, et de toute façon ils accueilleraient énormément de pays et montreraient quand même leur rayonnement actuellement international, mais ce serait certainement aux dépens, et je pèse mes mots, mais je le pense vraiment, ce serait un grand gâchis plutôt pour les pays qui vont boycotter ces Jeux Olympiques, pour les sportifs qui se sont préparés depuis 4 années. Et ce n'est pas au nom de normes qui ont certes des belles valeurs, mais souvent qui sont un peu trop focalisées, que l'on va aider la Chine ou les Chinois. C'est en allant à ces Jeux, c'est en rencontrant le peuple chinois, c'est en les connaissant un petit peu mieux, comme on doit le faire avec toutes les autres nations, que l'on va avoir des Jeux réussis. Et si demain, si vraiment on veut gâcher l'esprit de fête, si on veut être négatif, ça ne va pas se retourner contre la Chine. La Chine est d'ailleurs assez puissante pour je dirais, surmonter cette affaire. Mais ce sera, à mon avis, des conséquences, pourquoi pas économiques, mais en tout cas des conséquences culturelles, et puis l'esprit de fête gâché, mais pas pour les Chinois. Je pense que ce sera plutôt un problème pour ceux qui n'auront pas voulu jouer le jeu pour ces Jeux Olympiques.
Et le prix économique pour nous serait très lourd à payer.
Il est difficile de vous savez, il y a quand même un principe qui prévaut en Chine, mais c'est pas que chez les Chinois. On l'a vu dans d'autres affaires. Il y a un principe de confiance dans les entreprises. Il y a un principe de confiance entre les États. Et si aujourd'hui une nation se sent bannie par tel ou tel gouvernement ou est vexée, je dirais, dans un langage plus courant, c'est sûr que ça ne va pas arranger éventuellement certains dossiers. Ce qui ne veut pas dire que les diplomates chinois ne sont pas intelligents. Mais c'est vrai que les choses pourraient se crisper au niveau de l'économie, voire des investissements. Donc oui, il peut y avoir des conséquences négatives également au niveau de notre économie. Alors j'évite un petit peu de parler de l'économie à ce sujet, parce que les gens disent oui, on défend la Chine uniquement par rapport à son argent. Mais il ne faut pas oublier que si la Chine aujourd'hui n'était pas ce qu'elle est, la Chine actuellement, avec d'autres pays du monde, est en train de tirer fort heureusement la croissance mondiale. Et que si aujourd'hui on n'oublie pas ça, eh bien on se tirerait, je dirais, une balle peut-être à blanc, mais dans les jambes, envers nous-mêmes. Donc je crois qu'il faut faire attention actuellement à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, et plutôt que de bâtir des murs entre les différents peuples, plutôt que de susciter la haine, construire des ponts chaque jour davantage, et comme je le dis dans mon ouvrage, eh bien, pas à pas, construisons un monde meilleur.
Alors, est-ce que ce boycott éventuel pourrait avoir un effet positif, finalement, sur les rapports Chine-Tibet ? Est-ce que ça pourrait donner l'idée au gouvernement chinois de rencontrer ce fameux Dalai Lama? Ou est-ce que finalement c'est un coup d'épée dans l'eau et ça ne sert à rien?
Vous savez, les choses avancent toujours en Chine. Hein, et dernièrement, j'ai rencontré un jeune cadre chinois qui me disait, vous savez, finalement, parce qu'il y a des générations, c'est comme chez nous. Un jeune chinois, il est aussi proche qu'un jeune français, qu'un monsieur âgé chinois qui rencontre un monsieur âgé français. Il y a aussi des questions de génération. Et il me disait, vous savez, nous, finalement, des fois, parmi les jeunes, on pense que les critiques externalisées, c'est bon parce que ça nous fait avancer. Ben oui, bien sûr que les critiques, ça fait avancer, y compris chez nous. Je veux dire, même au niveau du gouvernement actuel, je veux dire, ou des gouvernements précédents. Des fois, ça tiraille un petit peu. Des fois, c'est aussi quelque part l'apprentissage de la démocratie que font les Chinois un petit peu en avance. Donc oui, aussi, d'une façon contradictoire, il ne faut pas gâcher ces Jeux Olympiques, mais il faut positiver actuellement, même si c'est difficile, ces critiques, parce que de toute façon, elles vont faire avancer le débat chinois, à condition qu'elles soient justes, à condition qu'on ne dise pas, aujourd'hui, il y a des camps de travail de paysans en Chine, ce qui est faux, qu'on ne dise pas, on fait travailler les enfants, ce qui est faux, vous voyez, qu'on supprime des principes qui n'appartiennent plus à cette Chine moderne qui existe véritablement. Ou alors que les gens qui disent cela aillent en Chine, prennent des photos et le prouvent. Et viennent chez nous. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas tel ou tel cas isolé. Mais qu'on arrête de faire des généralités sur les pays. Qu'on arrête de les stigmatiser. Et puis, il faut savoir, comme je le disais, que par la patience et la diplomatie, on arrive à beaucoup plus de choses. Et que la Chine est en voie de démocratisation. J'en suis persuadé, selon le modèle qui sera pas le modèle français, pas le modèle américain, mais j'irai un modèle chinois. Alors bien sûr, ça va prendre encore quelques années. Hein. C'est pas pour demain. Et par rapport donc à votre question qui était plus axée sur
les rapports entre la Chine et le Tibet.
Voilà, les rapports entre la Chine et le Tibet. On a là une double problématique. La première, c'est que on est déjà depuis 10 ans dans une logique qui vise à favoriser les ethnies en général, dont le Tibet, puisque c'est le sujet. Mais néanmoins, les Tibétains peuvent avoir, par exemple, autant d'enfants qu'ils le veulent, alors que les Han, qui sont l'ethnie majoritaire en Chine, seraient peut-être un petit peu jaloux parce qu'ils ne peuvent en avoir en théorie qu'un, à moins d'être très riches et de payer quelques amendes. Donc voilà, les libertés religieuses ont effectivement évolué. C'est vrai qu'actuellement, il y a une crispation autour du Dalai Lama qui représente pour la Chine, comme avec Taïwan, un petit peu le symbole de la division du territoire de la Chine. Et que les appuis que le Dalai Lama a reçus lors de sa première fuite, ça reste, si vous voulez, des sujets très sensibles pour la Chine. Bon, peut-être que demain les choses vont s'arranger. Mais vous savez, le Dalai Lama lui-même n'est pas, a priori, en tout cas dans ses déclarations, contre les JO, contre le boycott. Je pense qu'il y a également tout un entourage politique. Il faudrait vérifier les choses. Mais qui aujourd'hui, dit oui, nous on veut par exemple l'indépendance du Tibet. Ça veut dire quoi, le Tibet? Est-ce qu'ils veulent le Tibet est déjà autonome? Alors est-ce qu'il faut améliorer les réformes? Certainement, il y a des choses à améliorer. Est-ce qu'il faut créer une sorte de Vatican, je dirais, voyez, dans quelques années, qui s'intègre à la Chine, qui symbolise le Tibet? Est-ce qu'il faut que ce soit à Lhasa ou en Inde ou ailleurs? Moi, je ne sais pas, parce qu'il y a différents courants tibétains, il y a différents lieux sacrés en Chine. Donc c'est une question difficile. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on politise un petit peu trop et que le gouvernement chinois n'a pas envie de subir le syndrome de l'ex-URSS et de voir un empire éclaté où des gens revendiquent maintenant des territoires qui sont des pans entiers de la Chine. La Chine ne laissera pas faire, comme les Américains ou les Français ne laisseraient pas attaquer leur territoire. Et puis bon, on a connu d'autres histoires, nous, avec la Bretagne, etc. Et puis après, les choses se sont arrangées. Donc vous voyez... Bon, je crois que le moment n'est honnêtement, à moins que les choses changent demain ou peut-être après-demain. Mais là, actuellement, effectivement, moi, ce qui m'inquiète pas, c'est pas forcément la position, du Dalai Lama. C'est un petit peu l'entourage politique qui s'est fait en Inde. Quand on connaît toutes les rivalités anglaises, indiennes, de territoires et autres, ce que je peux vous dire. Maintenant, je n'ai pas les réponses sur l'avenir.
On verra bien. Pierre Picard, merci.